Chabot, qui est notre chroniqueur en politique internationale. Juste avant, on parlait avec David de Chabot, qui est un archéologue amateur. On parle de la construction à venir sur l'îlot Dorchester, qui était le gros stationnement dans Saint-Roch, là, qui expose actuellement le passé manufacturier du lieu, intimement lié à l'industrie de la chaussure. Salut, mon ami!
Hey, salut, je pensais pas me faire introduire comme ça. Maintenant.
Est-ce que le tombeau de Champlain il est en dessous de l'îlot Dorchester?
Hey, on a fait cette joke-là 1 milliard de fois, parce que pour vrai, ça serait cool de trouver ça, mais c'est moins cool. Parce que là, tu jammes la place pendant 100 ans. Là.
Pendant 100 ans.
Mais non, il n'y a pas Champlain. En fait, on a trouvé des
moules.
Des embauchoirs, je pense. Je pense que le bon mot, c'est embauchoir. Je regardais le rapport archéologique, ouais. Justement.
On peut-tu du vocabulaire?
On peut-tu dire des moules de souris, des moules à chaussures,
oui.
Pour les gens comme moi?
Oui, on peut dire ça comme ça parce que j'ai toujours dit ça de même. D'ailleurs, j'en ai un sur mon bureau parce que j'avais fait. Bon, là, je mélange les choses
on
un
sait
peu.
Bien,
mais
ton fétiche.
Oui, c'est ça, oui. Je vous écoutais en introduction. Tout à l'heure, ça m'a inspiré. Mais c'est ça. J'avais fait les consultations publiques pour le projet avec, ouais. Avec Trudel. Puis bon, on avait sorti ça des fouilles préliminaires. Puis là, j'ai ça sur mon bureau comme espèce de souvenir de cette époque.
Ouais. Mais est-ce qu'on savait qu'il y avait des trucs quand même assez intéressants du passé en creusant?
Oui, parce qu'en fait, comment ça fonctionne, là, puis je l'ai appris avec ce processus-là, c'est qu'au début, tu fais une étude préliminaire du site. Fait que là, tu regardes qu'est-ce qui se passait sur ce site-là avant. Donc là, ils sortent des vieilles cartes, là, puis on en a quelques-unes, là, puis là, c'est dessiné à main, tu sais, en 1700 tranquille. Là. Puis là, ben, tu te dis, OK, là, il y avait une shop de cuir, justement, puis des souliers, puis tout ça. Puis là, l'archéologue, dans le fond, fait une espèce de cartographie de où ça pourrait être intéressant ou pas. Puis après ça, il y a une fouille préliminaire, ça a été fait l'année passée, puis... Excuse-moi, durant les fouilles préliminaires, là, on va, à certains endroits très précis, aller gratter, fouiller avec des petits balais pour aller voir si on trouve des choses intéressantes ou pas. On a trouvé des fondations de bâtiments. Il y avait le culot d'un ancien four qui était utilisé pour faire de la métallurgie parce qu'il y a eu un peu de n'importe quoi sur ce site-là.
Ah ouais.
Puis on a trouvé plein de rebuts. Puis tu sais, jadis naguère, là, on remplissait plein de choses avec des déchets. Hein. Tu sais, on se disait, on va mettre ça drette, amène des déchets. Fait que là, tu trouves des vieilles bouteilles en porcelaine. Tu trouves littéralement des défections humaines. Tu trouves un paquet d'affaires de même. Puis les archéologues, ils trippent parce que là, ils vont fouiller là-dedans pour voir...
Ouais. Mais là, mettons quand la grue passe, là, puis il fait le ménage, là, t'as Indiana Jones qui descend dans le trou. Là. Ouais. C'est comme, il reste-tu là 10 secondes ou il dit au gars du chantier, allez prendre un café, revenez demain?
Ça dépend, dans le fond, de ce qui se déterre. Parce que dans les fouilles préliminaires, on voit des endroits stratégiques spécifiques pour essayer de voir à quel point c'est potentiel sur le site. Après ça, pendant que tu fais... Là, il y a de la décontamination à faire sur le site. Là. Donc, en même temps que les pépines grattent le sol pour sortir ce qu'il y a dedans, puis là, c'est pas de la contamination aux hydrocarbures, là, c'est du remblai hétéroclite qu'on appelle. Donc là, c'est de la pierre, puis de la roche, puis tout ça. Donc là, pendant que la pépine gratte tout ça, l'archéologue en surveillance est là, puis il dit « il me semble que là, ça me semble là, intéressant ce que tu viens de sortir, fait que laisse-moi fouiller. » Ça dure 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, dépendant de ce qu'il y a dedans, puis ça repart. Donc là, c'est juste pour s'assurer justement qu'on tombe pas sur une affaire qui a incroyablement de la valeur puis qu'on s'accède dans le container, tu sais.
Ouais, je comprends. Mais je vous souhaite, tu sais, je souhaite qu'un jour on trouve le tombeau de Champlain. J'espère juste que ce soit pas en dessous de ça.
Écoute, j'ai fait... j'ai fait la joke avec l'archéologue, là, puis je le salue, Martin Royer, c'est un gars incroyable. Ouais, il a une personnalité, là, vraiment. Puis... Tu sais, il dit, hey man, la joke de Champlain, je suis plus capable de l'entendre. Ouais, parce que lui, il travaille beaucoup dans le Vieux-Québec. T'sais. Il dit, on le sait à peu près où ce qui est. Là, c'est autour là, de. Il me semble c'est la place d'armes.
Il serait proche de la ruelle du Trésor, tu sais, où les gens ils vendent des peintures, là,
ouais.
Des toiles.
OK.
Oui,
ça
oui,
serait
oui.
Dans ce secteur-là.
C'est beau, ce coin-là.
C'est vraiment beau, mais il y a une couple de bâtisses là-dessus.
Là, ouais, c'est ça. C'est ça. Ben vois-tu, moi, j'avais un souvenir que c'était dans le vieux port, mais écoute, je le sais pas. Mais ça reste que. Pour eux autres, c'est comme un dossier réglé, même ouais. S'ils l'ont pas trouvé encore.
On se rappelait des souvenirs, moi et Jeff, quand on était jeunes, peut-être que tu as connu cette époque-là aussi. Il y avait un monsieur, année après année, là, il passait à la télé, il était soit à TQS ou soit à Télé 4, là, et il s'appelait René Lévesque. Puis
oui.
Tous les ans, il pensait avoir découvert le tombeau de Champlain, puis il creusait tous les ans. Malheureusement, il est décédé en 2007, tu
ouais,
m'as dit,
2007.
Max? Malheureusement, il est décédé en 2007 et il ne l'a toujours pas trouvé. Chroniqueur en politique internationale, David Chabot, salut!
Hey, salut, ça va?
Oui, ça brasse pas mal. Ce matin, quand je me suis levé, je regardais ce qui se passait ailleurs dans le monde, puis on s'est aperçu qu'il y avait des bombardements entre Israël et l'Iran. Et dans les dernières minutes, là, les Iraniens ont dit « Pour nous, c'est un cessez-le-feu. » Donc, il y a du développement. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine pour qu'on recommence à se bombarder?
Ben, la racine de tout ça, là, c'est que l'Iran est très, très irrité qu'Israël ait envahi une partie du Liban, puis attaque le Hezbollah. Donc là, c'est vraiment une alliance là, fraternelle entre le Hezbollah et l'Iran. Puis Israël, dans le fond, a dit, nous autres, on fait un ménage. Là. On s'en est parlé dans les dernières semaines. Là. Sont à tort ou à raison, là, dépendant de votre position là-dessus, là, mais on fait le ménage de la place pour avoir la paix pour 100 ans après. Donc là, ils sont rentrés au Liban. Ils ont fait un stationnement avec Gaza, là, avec la crise humanitaire que ça donne. Cisjordanie, pareil. On a attaqué le Yémen. On a attaqué l'Iran. Donc là, le but, c'est de nettoyer, là, en gros guillemets, le Moyen-Orient des
yeux. C'est-à-dire qu'au début, on a attaqué la Palestine?
Oui. Okay. Mais Gaza puis la Cisjordanie. Ben, okay. En tout cas, à savoir si tu vois c'est un pays ou pas, là, la Palestine, la reconnaissance, tout ça, c'est un gros enjeu. Mais là, ce qu'on se rend compte finalement, là, c'est que, tu sais, ce que Trump voulait faire avec l'Iran, là, c'était, au début, on a tout compris que c'est un changement de régime. Là, finalement, on a tout compris aussi que ça arrivera pas, tu sais. Donc là, la guerre fondamentale entre l'Iran puis Israël, ça arrêtera pas demain matin. Fait que là, en ce moment, il y a un cessez-le-feu. Puis là, ça arrive qu'il y ait tout le temps des petits clashs de même. Là, je veux dire, un cessez-le-feu, c'est jamais parfait. Là. Donc, tu sais, ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est pas nécessairement anormal. Tu sais, on l'a vu en Ukraine aussi. Cela dit, demain matin, là, il y a un deal de paix. Là. Donald Trump sort les deux doigts dans les airs en disant « Yes, victoire, Israël, Iran, tout le monde est en paix. » C'est pas vrai, là. Parce que ça va continuer à saillir, là. C'est juste que ça va saillir en s'achetant des guns, puis des armes, puis des missiles, puis ça va repéter dans 20 ans, 10 ans,
ben, c'est ce que j'allais dire, tu sais, c'est juste remettre à plus tard, parce que le Hezbollah va continuer d'exister, puis Israël va continuer de vouloir combattre le Hezbollah.
Exact, puis tu sais, je suis vraiment pas partisan de rentrer en Iran, puis tu sais, changer la place, là, parce que là, ça serait une guerre incroyable.
Mais tu pourrais faire quoi? Tu peux-tu dire aux gens, regarde, il vous reste 7 jours pour quitter le pays, puis après ça, on fait un stationnement, ça aurait pas de bon sens?
Ben, tu peux pas faire ça avec un pays aussi grand que l'Iran. Tu sais, fait que là, l'affaire, c'est que quand ça a commencé à péter, là, en juin l'année passée, puis que là, il y a eu les manifestations, puis que là, le peuple était dans la rue, là, t'avais le momentum pour sortir le régime et faire d'autres choses. Ils l'ont pas fait. Les États-Unis n'ont pas été là. Ils ont laissé tomber un peu la population. Puis c'est facile à dire en rétrospect un an plus tard, parce que c'est des situations extrêmement compliquées à prendre les bonnes décisions, tu sais. Mais après ça, ils sont retournés en février. Puis c'est février, je pense, qui est une vraie erreur, parce que si tu rentres pas là en disant « je veux changer le régime », ben, tu te retrouves à la même place aujourd'hui?
Oui, parce que là, tu avais, tu sais, puis selon les estimations, puis ça reste toujours à confirmer parce que c'est dur d'avoir les statistiques en Iran, mais tu avais à peu près 10 000 civils qui s'étaient fait gonner par des snipers qui protégeaient le régime. Fait que là, dans ce temps-là, tu sors moins pour faire une manifestation.
Oui, oui. Moi, j'ai même lu jusqu'à 50 000 passer. Là, ben, tu vois. Mais imagine le massacre. 50 000 personnes en genre un mois, là, c'est beaucoup. Là.
Ben, c'est ça. Fait que là, tu rentres chez vous puis tu te dis, ben écoute, je vais vivre avec quel régime.
Ouais, ça te calme la pancarte un peu, tu sais. Fait que là, quand ça revient en février, puis que là, boum, frappe de missile puis tout ça... ouais, t'es-tu là pour vrai? T'es-tu là juste une fin de semaine? Puis tu sais, ça, ce concept-là que la population locale va renverser le gouvernement, là, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan, là, on le voit là, c'est tout le temps l'espèce de lubie un peu poussée par la CIA de dire « Hey, nous autres, là, on a des racines locales, puis un mouvement qui va pogner, puis tu vas voir, ça va faire une révolution. » Ça, on a vu ça 1000 fois dans l'histoire, puis je pourrais faire plein d'histoires aussi pendant la guerre froide. Puis on en revient tout le temps à se dire... Le courage des autres, il est facile en sacrifice à solliciter. Hein. Mais quand c'est toi, là, ça te tente un peu moins. Fait que là, la population iranienne, que j'ai un immense respect pour cette population-là, pas pour le gouvernement, mais la population, ben là, ils l'ont dépensé leur banque de courage déjà. Là. Fait que là, tu te retrouves dans une situation où t'as refrappé, là, tu dis « j'ai décapité le régime », finalement, il est encore là, il est encore pire qu'avant, en fait, parce qu'il est défragmenté. Ils se sont armés, ils ont découvert leur levier de puissance au Moyen-Orient avec Hormuz, puis avec le fait que tirer des missiles balistiques à gauche à droite, ça fait vraiment chier tout le monde. Puis là, t'essaies de négocier avec eux autres. Négocier quoi? Ils veulent plus là, négocier. Ils ont compris c'est quoi leur levier avec cette guerre-là. Fait que tu leur as enseigné comment faire chier la planète encore plus.
Tu leur as donné plus de force, dans le fond.
Ben oui, ouais, c'est ça la résultante de cette guerre-là. Puis... Tu sais, c'est facile de dire ça en rétrospect, parce que là, tu regardes ça, puis tu dis « Ah, c'est ça que ça a donné comme résultat. » Mais justement, quand tu te lances dans des aventures de même, puis là, by the way, apparemment, Trump, en fin de semaine, il a dit qu'il avait jamais promis de pas faire de guerre. Là, il a fait une guerre pareille, puis il a jamais promis ça. Fait que là, c'est une autre affaire qui vire de bord. Mais pour en venir à ça, quand tu te lances dans une aventure comme ça, là, puis c'est la même chose pour Poutine en Ukraine, là, hey, faut que tu sois sûr en sacrifice de ce que tu fais. Parce qu'une fois que tu as mis le doigt dans la grenache, tu peux pas sortir parce que là, c'est comme une défaite. Tu sais, demain matin, là, Donald Trump claque les doigts et dit moi, là, fini l'Iran. On remballe puis on s'en va. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que là, les États-Unis sont humiliés, puis plus personne va avoir confiance en eux autres. À dire, OK, tu sais, là, tu étais allié avec Israël, tu dis que tu vas faire du ménage, finalement, tu le fais pas vraiment, tu t'en vas, la job est pas finie. Demain, qu'est-ce que tu vas faire avec, j'invente une situation fictive, le Cachemire, mettons, entre le Pakistan et l'Inde? Alors, on va s'impliquer, ouais, Taïwan, meilleur exemple en fait. Taïwan, là, ça commence à chauffer avec la Chine, puis là, les États-Unis, on va les défendre. Tu vas-tu nous défendre pour vrai? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer une semaine? Fait que c'est ça là, le gros dilemme en ce moment. C'est pour ça qu'ils veulent pas sortir de là.
Trump est extrêmement challengé. Au niveau économique aux États-Unis, là, la dette des États-Unis est juste hallucinante. Là.
Ouais.
Puis elle va croître encore pour ce qui est de la prochaine année. Ça ira pas mieux. C'est quoi les choses auxquelles il est confronté actuellement à l'interne aux États-Unis? Il y a la dette, ouais, probablement. Y a-tu autre chose?
Et il veut vraiment multiplier, je pense que c'est par deux complètement, là, les dépenses en militaires. Là, fond. La vision de Trump, c'est de dire la paix par la force. Là. Ça fait vraiment comme un slogan sur un camp de concentration, là, mais c'est la paix par la force. Fait que là, en multipliant le budget militaire, même s'il a coupé ailleurs dans l'USA et tout ça, ça ne compensera jamais. Donc là, la dette du pays est en explosion constante. Puis ça, c'est pas juste lui qui l'a fait là, depuis tout le temps. Là, les présidents ils ont endetté le pays. Mais là, la dynamique, c'est de dire est-ce que la croissance du PIB est plus rapide que la croissance de la dette? Parce que là, les pays, dans le fond, autant que quand tu vas voir à la banque, là, puis qu'ils font ton évaluation de crédit, là, puis ouais, ils font le ratio entre tes revenus puis tes dettes, puis là, ben, ils disent, OK, regarde, t'as 10 000 piastres ta carte de crédit, mais tu gagnes 70 000, ben, c'est correct que ça balance, on va te prêter pour une maison, mettons. Ben, c'est un petit, là, je caricature un peu, c'est pas plus compliqué que ça, là, mais les pays, quand ils empruntent, c'est un peu la même chose. C'est quoi ta dette nationale versus tes revenus, donc le PIB, le revenu potentiel, puis après ça, ben, je vais évaluer ta cote de crédit en fonction de ça, puis ta cote de crédit qu'on voit déjà souvent, excuse-moi, varié au Canada puis au Québec, c'est de dire, ben OK, là, toi, t'as un risque modéré, mettons, fait que tu peux emprunter sur les marchés publics à 2 % mettons. Mais pour une dette nationale comme les États-Unis, là, qui est rendue à
39 milliards.
39 000.
39 000 milliards.
Ouais, là, c'est des trillions en anglais, des billions en français. On n'utilise jamais ça. Mais 39 000 milliards, ben quand tu varies de 0,25 % là, 25 pins sur ta dette, là, ça fait tout péter, là, parce que là, c'est 0,25 % de tout ça que tu dois payer en intérêt annuellement. On vit la même chose au Canada, là. On en parle tout le temps de la dette puis des paiements d'hypothèques, tout ça. Ben, d'hypothèques. D'intérêt. Ouais, c'est un peu là, les deux mondes
qui se mélangent. Qui va devenir le deuxième fardeau fiscal le plus gros au Canada là, dans le prochain budget. Là,
c'est ça.
L'intérêt sur la dette.
C'est ça. Fait que là, tu sais,
le ratio. La plus grosse dépense.
Le ratio PIB, c'est bien drôle, mais après ça, il t'en reste plus pour les services. Fait que pour revenir aux États-Unis, là, en fait, j'ai publié là-dessus en fin de semaine. Je sais pas si tu as lu mon post pour me parler de ça. Mais la dette, dans le fond, elle arrive à échéance. Fait que là, ils vont émettre des bons de 10 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an. Là. Puis toi, comme client, tu peux dire, ben là, je vais acheter de la dette des États-Unis pour 2 ans. Puis ils vont te donner 1,75 %, mettons. Fait que là, quand l'échéance de ça arrive, ben forcément, il faut que le pays, les États-Unis, rachètent ta dette. Ils vont te redonner ton argent. Ils t'ont donné ton intérêt pendant que tu avais la dette. Puis après ça, ils te rachètent ton montant. Tu me suis? Fait que là, en ce moment, là, il y a 8 000 milliards qui arrivent à terme dans la prochaine année.
8 000 milliards.
Ouais. Fait que là.
Ils en doivent 39 000 milliards.
C'est ça. Puis c'est 8 000 milliards de dettes détenues par des intérêts privés. C'est ça qui est important aussi parce que quand tu vas sur le marché privé versus les institutionnels, les autres pays, t'as pas nécessairement les mêmes conditions d'emprunt. Le marché privé est beaucoup plus agressif puis il veut plus de rendement. Puis l'institutionnel se satisfait avec des conditions sur plus long terme, etc. Mais là, je veux pas vous faire un grand cours d'économique. Le point étant que. Plus la dette augmente, plus ces considérations-là deviennent un enjeu politique pour les États-Unis et pour les autres pays. Parce que quand tu renouvelles ta dette, ben là, tu n'as plus tous les mêmes choix, tu n'as plus tous les mêmes leviers, puis après ça, tu as des paiements d'intérêt plus agressifs à faire. Puis en plus, tu es dans un contexte actuellement où les taux d'intérêt vont probablement aller vers la hausse, l'inflation se pas réglée à 100 %, évidemment, le Moyen-Orient, le pétrole, tout ça. Fait que quand on va être à renouveler ces montants-là, le paiement d'intérêt aux États-Unis va exploser, en plus des déficits budgétaires annuels qui s'en viennent parce que Trump veut surdépenser. Fait que je suis pas sûr que ça s'en va à bonne place, ce pays-là, en ce moment. Puis on n'a pas de leçon à donner non plus, parce que l'endettement au Canada, c'est pas terrible.
Okay. Maintenant, il pourrait peut-être y avoir une rencontre, puis on va terminer avec ça, il reste à peu près 2 minutes, David. Il pourrait peut-être y avoir une rencontre entre Zelensky et Poutine. On fait ça dans quel pays? Canada? Chine? Mais s'il le fait ici, on est obligé de l'arrêter, Poutine?
Ouais, non, ça serait dans un pays qui accepterait sa neutralité, mais je pense pas que ça va. Ben, peut-être. Effectivement, ça pourrait être un bon... Ou bien, on en retourne au Pakistan, tu sais. Mais dans ce cas-ci, je trouve ça intéressant parce que Zelensky veut ça, Poutine veut pas ça. Okay? Fait que ça arrivera pas, cette rencontre-là. Par contre, là où ce que je trouve ça intéressant, c'est que c'est la première fois, à ma connaissance, que Zelensky dit « Je veux le rencontrer direct, puis l'Europe, les États-Unis, ils seraient autour, mais c'est moi qui m'en occupe. » Puis, là, pourquoi je te dis ça, c'est que les États-Unis, depuis Trump, et même avec Biden dans le temps, on s'en occupe de ta guerre, man. Occupe-toi d'envoyer des soldats, là, puis nous autres, on va faire la grande diplomatie. Là. Les adultes vont parler autour de la table, puis tu prendras bien ce qui va rester. Là, Zelensky, ce qu'il dit, c'est « Votre histoire, ça marche pas, je vais m'en occuper moi-même. » Puis ça, c'est majeur, parce que s'il réussit, puis je pense pas, mais s'il réussit à avoir une rencontre avec Poutine directement, puis qu'il y a des choses qui se sont négociées bilatérales, les deux pays ensemble, sans avoir l'interférence de l'Europe puis des États-Unis, c'est un changement drastique de la position de l'Ukraine qui passe de victime à État qui va défendre pour lui-même. Puis ça, d'un point de vue diplomatique, là, pas militaire. Ça, je trouve que c'est un gros chiffre, puis Zelensky a comme pas le choix d'aller là, parce que l'Europe le soutient encore avec la coalition des volontaires puis tout ça. Mais tu sais, le soutien n'est jamais aussi fort, aussi riche, on va dire, en termes monétaires puis en termes de matériel que ce que les États-Unis donnaient dans le passé. Puis on sait que Trump a levé le pied beaucoup là-dessus. Donc là, on se retrouve dans une situation où Zelensky se dit « J'ai pas autant d'appui, j'ai plus autant d'armes qu'avant. Sur le terrain, ça va quand même pas si mal, c'est le temps de négocier. » Donc là, c'est ça qui va se passer, ou en tout cas, qui essaye qu'il se passe.
Merci beaucoup, David Chabot. Je te souhaite de passer une super de belle semaine. Puis, si jamais vous tombez sur le tombeau de Champlain, là,
on t'appelle.
Dans Saint-Roch, oui, j'aimerais ça avoir une entrevue avec toi. Ce serait intéressant.
Ou avec Champlain?
Oui, moi aussi. Tu sauras faire parler l'époque.
Je t'organise ça.
Merci beaucoup, David.
Merci.
Max, sur la route?
Ça se règle tranquillement, pas vite, à certains endroits, là, notamment secteur des ponts, encore du rouge quand t'arrives par la 113 et 20 ouest, mais quand t'arrives par la 20 est, ça va vraiment de mieux en mieux. En 4 sud, toujours un petit ralentissement à hauteur de la 40. Sinon, c'est ça le gros problème, ça reste vraiment sur en 4 dans les deux directions vers l'avenue industrielle, là, c'est bien jamais encore.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,